Pictura Poésie présente un nouvel épisode de son podcast, Le Cercle de la Bougie.
Bonjour et bienvenue pour cette exploration assez particulière aujourd'hui. On va suivre Arthur Rimbaud, son évolution poétique, à travers ses lettres.
Oui, bonjour. Une évolution fulgurante, vraiment. On va s'appuyer sur quelques lettres clés, c'est la Banville, Isambard, Démeny, pour comprendre ce passage.
C'est ça. L'idée, c'est de voir comment ce jeune homme passe d'une ambition, assez attendue, à sa théorie du voyant, un truc assez radical.
Tout à fait. Et ces lettres, elles sont passionnantes parce qu'on touche du doigt cette transformation. On part d'une sorte d'appel à l'aide pour arriver à ce fameux « je est un autre ». C'est ça qu'on va essayer de décortiquer un peu.
Alors, commençons par le commencement. Mai 1870, la lettre à Théodore de Banville. Rimbaud a 16 ans, il est plein d'espoir, il part de...
Oui, de bonnes croyances, d'espérance.
C'est ça, de sensations, le printemps, ça a l'air presque... sage.
Oui, enfin, sage par rapport à ce qui va suivre. C'est assez typique du jeune poète qui cherche un maître, une figure d'autorité.
Il demande « tendez-moi la main ».
Il y a une forme d'humilité, non ?
Humilité, oui. Et un désir d'appartenir à ce monde littéraire parisien. Sa poésie est encore assez lyrique, mais on sent déjà une conviction très forte en sa valeur. C'est ça qui est déjà frappant à cet âge.
Mais ça ne va pas durer très longtemps.
À Georges Isambard. Charleville, mai 1871. Cher monsieur, je veux être poète et je travaille à me rendre voyant. Vous ne comprendrez pas du tout et je ne saurais presque vous expliquer. Il s'agit d'arriver à l'inconnu par le dérèglement de tous les sens. Les souffrances sont énormes, mais il faut être fort, être né poète, et je me suis reconnu poète. Ce n'est pas du tout ma faute. C'est faux de dire, je pense, on devrait dire, on me pense. Pardon du jeu de mots. Je est un autre. Tant pis pour le bois qui se trouve violon. Est-ce de la poésie ? C'est de la fantaisie. Toujours. Mais, je vous en supplie, ne soulignez ni du crayon, ni trop de la pensée.
Quelques mois passent, on est en novembre 1870, et là, lettre à son prof, Isambard. Le ton change carrément.
Ah oui, là c'est l'explosion. Fini l'espoir printanier. Il dénonce la platitude, la mauvaiseté, la grisaille de Charleville, son environnement.
Une vraie révolte.
À Paul Demeny Charleville, 15 mai 1871. Je est un autre. Si le cuivre s'éveille clairon, il n'y a rien de sa faute. Cela m'est évident. J'assiste à l'éclosion de ma pensée. Je la regarde. Je dis qu'il faut être voyant, se faire voyant. Le poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement tous les sens. Toutes les formes d'amour, de souffrance, de folie. Il épuise en lui tous les poisons, pour n'en garder quintessence.
D'où ça vient si vite ? Probablement l'étouffement, la frustration, il se sent à l'étroit. Et ce qui force, c'est ce cri pour la liberté libre. C'est plus qu'un souhait, là, c'est viscéral.
Il y a cette tension aussi. Il veut partir, mais il dit « je suis resté ».
Exactement. Ça montre déjà ce caractère tourmenté, cette nature rebelle qui va marquer toute sa vie, enfin sa vie de poète en tout cas. Ça préfigure ses fugues, son errance.
Et cette rébellion, elle va trouver une forme théorique, on peut dire, en mai 1871, les fameuses lettres du voyant et la formule choc « je est un autre ».
Voilà, on y est. Le cœur de sa révolution personnelle et poétique.
Qu'est-ce que ça veut dire au fond « je est un autre »
C'est l'idée que le poète n'est plus le maître de ce qu'il écrit. Il devient une sorte de canal, de réceptacle. « On me pense », il écrit. Ce n'est plus le « moi » intime qui s'exprime, mais quelque chose qui le traverse, quelque chose d'extérieur ou de plus profond.
D'accord. Et il propose une méthode pour ça ? Le long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens, ça sonne un peu paradoxal, non ? Dérèglement et raisonné ?
C'est toute l'audace du truc. Ce n'est pas juste devenir fou, c'est pas passif. C'est une démarche volontaire presque scientifique à sa manière.
Une expérience, en quelque sorte.
Oui, une expérience limite. Explorer toutes les formes d'amour, de souffrance, de folie, comme il dit, pour en trouver les quintessences. mais attention, de manière raisonnée, c'est-à-dire consciente, avec une volonté derrière. Il veut maîtriser ce chaos pour en extraire quelque chose d'inconnu.
C'est une quête de connaissance par l'extrême alors. Il faut une sacrée force. Il le dit lui-même d'ailleurs, hein. Il faut être fort, être né poète.
Tout à fait. Ce n'est plus seulement écrire différemment, c'est être poète différemment. Le poète devient un explorateur.
Un explorateur de la conscience, du langage.
Exactement. Il repousse les limites de ce qu'on peut percevoir et dire. C'est en ça que son héritage est si important, si durable.
Justement, cet héritage, qu'est-ce que ces lettres ont changé concrètement ?
Eh bien, elles marquent un tournant radical pour la poésie moderne. Elles posent les bases d'une esthétique de la subversion, de l'expérimentation.
L'art comme outil pour voir autrement.
Oui, pour déconstruire la réalité ordinaire, pour atteindre d'autres états. Ça va nourrir le symbolisme, bien sûr, et puis surtout le surréalisme. Les surréalistes vont le revendiquer comme un précurseur direct.
Ah oui, cette quête de l'inconscient, du merveilleux, par des voies non rationnelles.
C'est exactement ça. Il a ouvert une porte immense.
Donc, pour résumer un peu, en à peine un an, ces lettres nous montrent Rimbaud passer du jeune poète qui cherche sa place au théoricien radical qui veut faire du poète un voyant.
Une métamorphose incroyable, qui a vraiment redéfini le rôle du poète et ouvert des possibilités infinies pour la création, pour le langage lui-même.
Et pour finir, peut-être une petite ouverture, cette idée d'explorer l'inconnu par un dérèglement raisonné et cette acceptation que « je » est un autre. Est-ce que ça pourrait nous parler aujourd'hui, au-delà de la poésie, dans d'autres domaines de création ou même dans notre façon de nous comprendre nous-mêmes ?
C'est une excellente question. Ça interroge notre rapport à la norme, à la conscience, à ce qui nous dépasse peut-être. Une piste de réflexion intéressante, oui.